Et c'est vrai que les mauvaises nouvelles sur le front du changement climatique ne cessent de s'accumuler. Records de chaleur, sécheresse qui s'aggrave, fonte rapide des glaciers ou intensité des incendies et des inondations. Sans parler des liens évoqués entre le climat, les maladies, les migrations et les conflits. Certaines voix s'élèvent contre le catastrophisme climatique et ses conséquences sécuritaires. C'est la position du politologue Bruno Tertrais qui est mon invité dans un instant avec à ses côtés la climatologue et membre du GIEC Valérie Masson-Delmotte. Vos questions et vos réactions dès maintenant sur le site de La Tête au Carré. Multiplication des tremblements de terre liés au gaz de schiste aux États-Unis, c'est à la une de la science aujourd'hui. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu. Et certains États commencent à réagir. L'Oklahoma a annoncé ce week-end la mise en arrêt de 37 puits après un tremblement de terre de magnitude 5,6 vendredi. On y revient dans un instant à la une.
Et c'est Stéphanie Texier qui réalise l'émission préparée par Chantal Le Montagnier avec Mamoun Mebarek.
La Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Peut-on parler d'un catastrophisme climatique et d'une tendance à attribuer au climat justement tous les maux de notre planète? Discussion aujourd'hui avec mes invités, la paléoclimatologue Valérie Masson-Delmotte et le politologue Bruno Tertrais. Bonjour à vous
deux.
Bonjour. Bienvenue. Bruno Tertrais, vous publiez au CNRS Éditions « Les guerres du climat, contre-enquête sur un mythe moderne. Le réchauffement climatique comme facteur de guerre, ça n'est pas sérieux selon vous ?»
Je crois que c'est une thèse qui ne tient pas vraiment la route, à savoir que y a deux manières de voir ce sujet. Première manière, c'est de dire que le changement climatique, ça va forcément déboucher sur moins de ressources, moins d'eau, et que ça va mener directement à la guerre. Et deuxième manière de voir les choses, qui à mon sens est presque aussi fausse, c'est de dire que le réchauffement climatique va tellement déstabiliser certaines sociétés, certains États, certains pays, à la fois via la question des ressources, mais aussi via les migrations, les catastrophes naturelles, que, in fine, ça va pousser à la guerre civile et au conflit. Et à mon sens, ni l'une ni l'autre de ces thèses ne sont très solides.
Eh bien, on va en discuter avec vous, Valérie Masson-Delmotte. Est-ce qu'au regard de la complexité de la machine climatique, on peut facilement dire justement quels sont ses impacts sur la planète et sur les habitants?
On prend les choses en série. La première question, c'est par exemple dans un changement climatique qui est observé, qu'est-ce qui est de la variabilité naturelle du climat et puis qu'est-ce qu'on peut attribuer à l'influence humaine sur le climat? Et on voit par exemple un lien qui émerge de plus en plus clairement avec les pluies torrentielles, les vagues de chaleur ou des sécheresses plus intenses. C'est clairement établi. Et puis ensuite, par rapport à ce changement climatique, quelles sont les conséquences sur les sociétés humaines? Il y a par exemple un lien établi entre température au-dessus de 30 degrés et puis baisse des rendements sur certaines cultures de céréales. Mmh. Et puis ensuite, quand on rentre sur les sociétés humaines, eh ben, c'est le concept de risque qui s'applique, c'est-à-dire qu'il y a des vulnérabilités, des expositions au risque, un aléa, et puis tout l'effet de la gouvernance qui peut limiter les risques ou les augmenter.
Matière à discussion entre vous deux tout à l'heure, et puis bien sûr avec les auditeurs qui nous rejoignent avec les messages franceinter.fr et puis également sur Twitter avec le mot-clé l'attaque.
La science de l'environnement, en partenariat avec reporter.net, le quotidien de l'écologie.
Samedi, donc ce week-end, l'État d'Oklahoma a ordonné la fermeture de 37 exploitations gazières et pétrolières par fracturation après un tremblement de terre de magnitude 5,6.
Il fut un temps, on détectait peut-être 3 séismes par an, alors que maintenant, on en est à 3 par jour. L'augmentation est vraiment exponentielle.
Et peut-on parler d'une prise de conscience aux États-Unis au moment justement où le prix du pétrole est en baisse? Nous sommes en direct avec vous, Catherine Gauthier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en ligne depuis la Californie, d'où ce petit décalage entre nos voix. Vous êtes docteur d'État en physique, professeur au département de géographie à l'université de Santa Barbara. Et dans ce studio, comme tous les lundis avec nous, Hervé Kempf, avec notre partenaire reporter.net. Bonjour Hervé.
Bonjour Mathieu.
L'État d'Oklahoma qui ferme 37 exploitations de gaz et pétrole de schiste. Hervé, pourtant, le problème des séismes induits n'est pas nouveau aux États-Unis.
Oui, ça fait depuis 2011 que vraiment les scientifiques, les géologues ont commencé à s'en préoccuper en associant, en se posant la question, est-ce que ces séismes qui apparaissent dans des zones où ils étaient presque inconnus ne sont pas liés à un nouveau phénomène, en l'occurrence l'exploitation du gaz de schiste qui a commencé à grande échelle aux États-Unis durant les années 2000. Il y a eu plusieurs publications depuis 2009-2011 dans des revues assez obscures, même si elles sont très pointues, de géologues, mais au printemps, juste avant l'été, il y a une étude importante de l'organisme d'études géologiques des États-Unis, l'USGS, qui a fait une étude précise sur ces zones de centre États-Unis, particulièrement en Oklahoma et en Texas, et qui constate que, alors qu'avant, il y avait 24 séismes par an en moyenne entre 1973 et 2008. Depuis, il y a une augmentation régulière jusqu'à 1000 séismes induits par l'activité humaine dans ces zones en 2015. Donc on a vraiment changé d'échelle et c'est maintenant reconnu comme un problème par les scientifiques.
Axel.
Alors Catherine Gauthier, est-ce que vraiment il y a une prise de conscience à la fois scientifique et politique aux États-Unis en ce moment ?
Oui et non. Il y a une prise de conscience qui existe depuis plusieurs années par les environnementalistes, mais il y a encore une résistance des pétroliers, naturellement, à prendre conscience de ce problème des tremblements de terre.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer, en quelques mots, en quoi la fracturation engendre des tremblements de terre ?
Oui. Alors, la fracturation, qui est une technique utilisée par les producteurs de pétrole et de gaz pour extraire le pétrole du sol, est en fait responsable du boom de production pétrolière qui a été enregistré aux États-Unis ces dernières années. C'est une technique de forage qui consiste à fissurer la roche. En fait, c'est un schiste argileux sédimentaire à l'intérieur de laquelle sont piégés le pétrole et le gaz. Et en fait, cette fissuration se fait à l'aide d'eau qui est injectée à très haute pression. Et cela, de manière à rendre le processus plus efficace, on y ajoute du sable et des produits liquéfiants en ébullition qui sont en général toxiques et parfois cancérigènes. Bon, quelle est la relation avec les tremblements de terre ? Il y a en fait deux causes possibles pour le tel tremblement de terre. La première est un effet direct du fracking, qui ne produit que des tremblements de terre mineurs de quelques 2 ou 3 sur l'échelle de Richter, des micro-séismes, quoi. Mais c'est la réinjection des eaux usées qui remontent à la surface avec le gaz et le pétrole après la fracturation de la roche qui est la cause principale de la sismicité. En effet, elle remonte à la surface entre 20 à 70% du volume injecté. Et il faut se débarrasser de cette eau qui remonte. On veut la stocker, on la traite, et parce qu'elle contient des composés chimiques introduits en amont avant la fracturation, ainsi que des composés naturels qui proviennent des eaux résidences et des formations profondes. Et alors ce traitement, quand le pourcent débarrassé, ça se fait par évaporation dans des réservoirs de surface, mais le plus souvent par la réinjection dans des couches géologiques profondes, locales ou à distance. Et ce faisant, les failles qui peuvent exister en profondeur peuvent être ouvertes, et ainsi provoquer un glissement qui donne lieu à un tremblement de terre.
Alors, est-ce qu'il y a une autre solution que de réinjecter cette eau en profondeur ?
Pas vraiment, parce qu'il s'agit de très grands volumes d'eau. Il faut le traiter, et comme je dis, c'est très difficile à traiter. Il faut des usines à traitement spécial, parce que les composants chimiques qui sont contenus dans cette eau ne sont pas les composants chimiques qu'on a l'habitude de trouver dans les eaux usées, qui sont traités normalement ou localement. Il s'agit de très très grandes quantités d'eau. Bien sûr, on peut le faire, mais ça va coûter très cher.
D'un point de vue du ressenti, est-ce que ces séismes induits ont les mêmes caractéristiques que des séismes naturels ?
Oui, absolument. C'est très difficile en fait de savoir si un séisme est naturel ou un séisme est induit. C'est sur le plan statistique qu'on le voit. On voit d'abord où est-ce qu'ils ont lieu. S'ils ont lieu près de fuites forages, de puits de réinjection et des puits qui sont actifs, et qu'ils sont nombreux, ces séismes, là on dit que ce sont des séismes induits.
D'accord.
Mais la qualité du séisme lui-même ne différencie pas un séisme induit d'un séisme naturel.
Catherine Gauthier, le séisme de vendredi a été ressenti donc en Oklahoma, mais également dans 5 autres États limitrophes. Pourquoi un séisme modéré, on le disait 5,6, peut voyager aussi loin ?
Alors moi, je ne suis pas géologue, donc je ne peux pas vous donner exactement les raisons. Je pense que ça a à faire au terrain qui a été déjà préparé d'une certaine manière par les autres. Par d'autres injections précédentes et puis par des petites failles, des micro-failles qui se sont créées. Mais bon, je ne veux pas aller plus loin que ça.
Hervé Kempf.
Il y a 30 000 puits d'exploration de gaz de schiste aux États-Unis. Est-ce que vous imaginez que ce débat, avec ses conséquences en Oklahoma qui sont vraiment une première, ça pourrait entraîner des conséquences sur l'ensemble de l'économie du gaz de schiste aux États-Unis ?
Catherine Gauthier.
Ah, pardon, j'ai cru que c'était Hervé Kempf.
C'était pour vous la question.
oui. Je pense que ça va prendre un peu plus de temps encore, parce que, vous savez, comme il y a un boom énorme avec l'existence de ce pétrole de schiste et de ces gaz de schiste, il a une très grande résistance à modifier. Il y a une composante économique énorme, des emplois à la clé. On va en parler plus, mais je pense que ça va encore prendre du temps pour que ce qui se passe, une grande réorganisation au niveau de dans ce milieu.
Dernière question.
Mais oui, est-ce que le temps passant, le risque augmente? Est-ce que les séismes peuvent être de plus en plus forts ou le risque reste le même?
Encore une fois, je ne suis pas géologue, mais je pense que comme il y en a de plus en plus, même si c'est des micro-séismes, ça crée des failles supplémentaires, et à chaque fois qu'il y a des failles, il y a des créations de failles, il y a une réorganisation de la masse rocheuse, et donc c'est un processus d'accumulation. Donc oui, je pense que ça risque d'être de pire en pire.
Cette décision, en tout cas, de l'État de l'Oklahoma de fermer 37 exploitations, c'est important pour vous? C'est une décision importante?
Oui, parce que c'est la reconnaissance de quelque chose qui a eu du mal à se faire reconnaître. Mais enfin, il faut quand même voir qu'il y a en fait aux États-Unis actuellement 300 000 puits qui servent à la réinjection de l'eau, puits de fracking.
300 000.
Donc 37, c'est pas beaucoup.
Bruno Tertrais.
Juste pour dire que aujourd'hui, le gaz de schiste, enfin les huiles de schiste ont pris une telle importance dans l'économie américaine que personne ne peut sérieusement imaginer, qu'on va fermer tout ça. En revanche, effectivement, ce type de débat, c'est la médiatisation de l'événement peut conduire à ce que ça soit un petit sujet dans la campagne, avec, vous pouvez l'imaginer, des positions qui seront extrêmement différentes du côté de Trump et de Clinton, mais ça peut faire partie des événements qui suscitent un débat pendant l'un des deux ou trois débats télévisés qui auront lieu entre Trump et Clinton, oui.
Valérie Masson-Delmotte, pour terminer.
Pour faire une analogie avec la question climat, finalement, on voit un séisme. D'habitude, on le considère comme une catastrophe naturelle. Et dans certains cas, ce séisme peut être tracé par rapport à une influence humaine. Oui. Et donc, la question de la gestion des conséquences se pose de manière complètement différente par rapport aux responsabilités humaines.
Fameux séisme induit dont on a parlé dans ce rendez-vous à la Une de la Science. Merci Catherine Gauthier de vous être levée tôt pour nous, parce qu'il est 5h15 du matin dans le ciel de Californie. Et on rappelle un livre que vous avez coécrit avec Jean-Louis Fellou, qui s'appelle « Les gaz de schiste, nouvel Eldorado ou impasse », publié en 2013 chez Odile Jacob. Et puis Hervé, on retrouve la Une, accompagnée d'un article sur reporter.net. Dès aujourd'hui. Merci beaucoup, à la semaine prochaine Hervé, et à demain pour Axel.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, le village d'Acciaroli au sud de Naples abrite pas moins de 81 centenaires sur un total de 700 habitants, soit plus d'un sur 10. Alors bien sûr, ce village intéresse les scientifiques. Après 6 mois d'études, voici le secret de ces trompe-la-mort en partie révélé. La nourriture apparaît comme la première cause de leur longévité, un régime méditerranéen avec au menu beaucoup de poissons, des produits cultivés sur place et bien sûr de l'huile d'olive. L'activité physique arrive ensuite, quasiment tous pratiquent la marche ou le jardinage quotidiennement. Et autre détail que révèlent les chercheurs, beaucoup de ces villageois, même les plus âgés, semblent avoir une activité sexuelle régulière. Le secret d'une longue vie est donc tout simple, une vie saine, du grand air et de l'amour. Une oreille conçue à partir d'un morceau de pomme, l'équipe de biohackers canadiens d'Andrew Pelling a réussi à faire pousser un prototype d'oreille humaine sur un simple morceau de pomme. Toutes les cellules contenant l'ADN du fruit ont été retirées. À la place, les chercheurs ont cultivé des cellules cancéreuses ELA, dont la particularité est de se diviser à l'infini. Les nouvelles cellules ont permis la formation d'un organe qui a pris la forme et la couleur d'une véritable oreille. Transplantée sur des souris, elle n'a montré aucun signe de rejet après 2 mois. L'expérience pourrait bientôt être testée chez l'homme, une méthode beaucoup moins coûteuse que les greffes animales ou que les matériaux synthétiques utilisés aujourd'hui par les chirurgiens. Et puis de nouveaux calculs concernant la potentielle 9e planète de notre système solaire qui agite les scientifiques depuis maintenant presque 6 mois. Selon les derniers travaux, cette géante encore invisible pourrait bien être responsable de l'expulsion de plusieurs planètes de notre système solaire lorsque le Soleil viendra à mourir dans plusieurs milliards d'années. Notre Soleil va en effet gonfler en détruisant certainement la Terre et les autres planètes plus proches de lui sur son passage. Et une fois sa phase d'enflement terminée, le Soleil va ensuite rétrécir pour devenir une naine blanche. Et c'est là que le réagencement des planètes rescapées risque d'être chaotique. La 9e planète devrait en effet être attirée vers le centre du système solaire, éjectant sur son passage Uranus et Neptune. Allez, réchauffement climatique et géopolitique dans un instant, c'est le dossier. Frankie Sinatra, Frank Sinatra, Frankie, my boy, don't know, you have a perfect voice to sing calypso. What did they say? Frankie Sinatra.
Frank Sinatra. Frankie, me boy, you don't know. You have a goofy voice to sing calypso. What did they say? Frankie Sinatra. Frank Sinatra. Frankie, me boy, you don't know. You have a goofy voice to sing calypso. What did they say? Frankie Sinatra. Frank Sinatra. Frankie, me boy, you don't know. You have a goofy voice to sing calypso. What did they say? Frankie, me boy, you don't know. You have a goofy voice to sing calypso.
Office rocker, he's office rocker. Please, Mr. Officer, I only had some vodka. Little marijuana, just a few biker. And only reason, circle around here while I'm driving. Play your registration, OG license. Cause of the interior, your bitch wanna ride it. Great red bow jack, dick got low jack. White House calling and they ask him where the dope.
Sing calypso. What did they say? Frankie Sinatra. Frank Sinatra. Frankie, me boy, you don't know. You have a goofy voice to sing calypso. What did they say? Frankie, me boy, you don't know. You have a goofy voice to sing calypso.
I'm so high, you're so high. If I take another step, then I test my die. Take another step, then I test my lie. Tell her what she wanna hear just to get between them thighs. Underground, make up on top of the world.
Tanks of vodka, sip slow rocker. I rip rhymes since the days with Frankie Crocker Rock. From a stocky stock, known for his illy right hook to make Rocky block. That's no poppycock pirate. We can keep it irie, or we can keep it irie. Ty Lee, we keep it 100. From the heights and all the lights, the Southern Comfort Muffin. Come with that headbanger bully for that ass. Villa give a bully 10 noogies for the cash. Dash, dip slow on a marathon. Or maybe he goes in Calypso like Farrakhan. Or Frank Sinatra, man.
The Avalanches avec Frankie Sinatra à l'instant.
La tête carrée. Sur France Inter.
Et on discute donc cet après-midi des conséquences sécuritaires et politiques du changement climatique, mais aussi de la dramatisation de cette question. Pour en parler, Valérie Masson-Delmotte, vous êtes paléoclimatologue, c'est-à-dire que vous vous intéressez à l'évolution du climat à des échelles de temps très importantes. Et puis vous êtes coprésidente du groupe numéro 1 du GIEC. Bruno Tertrais, vous êtes politologue, maître de recherche à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Et vous êtes donc auteur de cet ouvrage « Les guerres du climat, contre-enquête sur un mythe moderne » aux éditions du CNRS. Valérie Masson-Delmotte, première question pour vous. Vous avez lu le livre de Bruno Tertrais qui remet en cause l'idée selon laquelle le climat pourrait être un facteur géostratégique majeur. Qu'est-ce que vous en avez pensé ?
Alors j'en ai pensé que je partageais un certain nombre de critiques par rapport à une présentation parfois alarmiste de la réalité du changement climatique et de ses conséquences.
Ouais. Mmh.
Après j'ai lu de manière plus attentive tout ce qui faisait référence aux connaissances par rapport au changement climatique. Et là je dois dire que j'ai vu finalement une manière d'utiliser l'état des connaissances qui était un petit peu sélective. Par exemple, vous faites souvent référence à des études relativement anciennes, 2007, 2010.
Sur les rapports du GIEC, par exemple.
Par exemple, ou des publications, mais pas vraiment à l'actualité de la production de connaissances. Et puis, j'ai lu aussi les références que vous citez dans votre livre. J'ai appris des choses. Et ce qui m'a frappé finalement, c'est que cette question guerre et climat, pour moi, elle pose la question de la maturité d'un champ scientifique. Il y a quelques études qui émergent avec des études de corrélation, déclenchement de conflits armés avec la température locale, par exemple. Mais en même temps, souvent ça manque d'une analyse profonde des déterminants des conflits, et c'est là la force de votre livre, en fait, hein, d'appréhender cette fois-ci les processus, y compris les processus politiques qui jouent un rôle majeur. Et puis finalement, je me suis aussi interrogée sur l'autre approche, c'est-à-dire on se prépare à faire des guerres. On a des budgets de la défense importants dans le monde entier. Est-ce qu'on ne s'y prépare pas plus qu'on ne se prépare à agir par rapport au changement climatique ? Alors, ce que j'ai vu, c'est que, par exemple, on dépense dans le monde 2,5% du produit intérieur brut en dépenses militaires. C'est à peu près la moitié de ce qu'on dépense en termes de santé publique. Et les différents pays se sont mis d'accord l'année dernière sur un certain nombre de priorités. Il y a l'accord de Paris sur le climat, il y a les 17 objectifs du développement soutenable, il y a également l'accord de Sendai pour limiter les conséquences de catastrophes naturelles. Et finalement, est-ce que les dépenses publiques en termes de dépenses militaires ne sont-elles pas un frein à avoir des politiques publiques plus efficaces par rapport à ce qui peut être des déterminants de conflits, la pauvreté, la faim, la vulnérabilité de certaines populations. Voilà, donc je me suis interrogée dans ces différentes dimensions et après on peut revenir sur des points plus précis.
Bon, alors, Bruno Tertrais, votre réponse à la lecture de Valérie Masson-Delmotte de votre ouvrage.
Oui, un tout petit mot pour pas embêter l'auditeur avec la question des sources, sur un point important en même temps, ce que vous appelez à juste titre la maturité d'un champ scientifique. Alors là, il faut quand même dire que les liens entre conflit et environnement de manière générale, pas seulement changement climatique, mais ça, c'est un champ scientifique qui a quand même quasiment 30 ans derrière lui. Donc la maturité est déjà là, si vous voulez, c'est quand même, il y a des écoles, il y a des thèses, etc. Bon, c'est quand même un champ qui a été très largement...
On remonte même plus loin, parfois. Emmanuel Leroy Ladurie, par exemple, a fait des liens très précis entre...
Pour les historiens, évidemment, voilà, ça monte...
La révolution...
Ça remonte à plusieurs siècles. Ouais. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en tant que champ scientifique, et notamment une forme de sociologie à la croisement entre l'étude des sciences et la géopolitique, ça, c'est un champ qui a été très largement exploré, notamment en Allemagne, depuis 30 ou 40 ans. Donc, si vous voulez, en ce qui concerne maintenant le cœur du sujet, c'est les études actuelles, celles d'aujourd'hui jusqu'en 2015-2016, qui font des corrélations. Mmh. Alors, quand il y a des corrélations, vous le savez très bien, on est dans une émission scientifique, corrélation, est-ce que c'est causalité ou pas ? Quand il y a corrélation, il n'y a pas forcément causalité. Donc on essaie de voir si là où il y a changement, pour faire simple, si là où il y a changement climatique et qu'on voit qu'il y a une probabilité de conflit qui, sur plusieurs années, qui a augmenté, est-ce que c'est une simple corrélation ou est-ce qu'il y a bel et bien une question de causalité. Alors, juste un point avant qu'on reprenne sur le cœur du sujet. Je suis pas sûr qu'on va faire ici, qu'on va refaire le vieux débat sur armement versus développement, sur dépenses dites guerrières et dépenses dites sociales, etc. C'est un très très vieux débat. Je me limiterai quand même à rappeler une seule chose, c'est que le premier devoir de l'État, comme disait le général de Gaulle, c'est de protéger les citoyens. Et si on n'a pas... Alors, peut-être que les budgets de défense sont parfois excessifs. Dans certains pays, ils le sont certainement. Mais il est difficile de dire aujourd'hui, pour l'ensemble de la communauté internationale, que si on dépense pas assez pour l'éducation, le développement, l'environnement, c'est parce qu'on dépense trop pour la défense et la sécurité. Je ne crois pas que ce soit deux compartiments séparés. Voilà pour ce sujet, mais qui
alors,
est un autre débat.
Alors, revenons au cœur, si justement, bien, de cet ouvrage qui fait quand même, on peut le préciser, 39 pages, 42 pages,
écrite serrée, c'est vendu 5 euros, voilà. Donc si vous voulez, vous lisez ça dans votre trajet de transport.
C'est l'idée de cette
commun.
Collection du CNRS.
C'est l'idée de la collection, mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'on essaye de faire des références solides dans ce genre, dans ce type de publication.
Alors, ce lien entre le changement climatique, justement, et les conflits, les guerres. Pourquoi vous intéressez à cette question en particulier, Bruno Tertrais?
Eh bien, pour une raison très simple, ça fait maintenant 10 ans que l'on voit les plus hautes autorités politiques, en France, aux États-Unis, aux Nations Unies, nous dire le changement climatique, ça va être générateur de conflits. C'est une arme de destruction massive, disait John Kerry, le secrétaire américain aux affaires étrangères. Ça a été l'objet d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. Si vous voulez, l'heure est grave pour les politiques. Est-ce qu'ils ont raison? Eh bien, je ne crois pas qu'ils aient raison de mettre en avant cette question de la conflictualité, des risques de guerre, de conflits, de crises à cause du changement climatique. Il y a certainement d'excellentes raisons de se préoccuper du changement climatique, à mon avis, pas celle-là. Et je trouve qu'on est un peu dans la dramatisation inutile. Est-ce qu'on a plus de guerres aujourd'hui? Eh bien, depuis 30 ans, non. La tendance est exactement inverse. On a plutôt moins de conflits. Hein, on a plutôt moins de conflits qu'il y a une trentaine d'années. Est-ce que lorsque il fait plus chaud, alors je sais bien que le changement climatique c'est plus que la température, mais est-ce que globalement dans un monde plus chaud, on a moins de ressources agricoles? Alors de manière très générale, c'est plutôt au cours de l'histoire, les périodes
périodes froides qui ont été génératrices de déficits de ressources. Ça ne veut pas dire qu'on va aujourd'hui avoir des rendements agricoles de plus en plus forts, mais si vous voulez, il faut se méfier de ce qui nous paraît être un jugement intuitif selon lequel, oh là là, plus il va faire chaud, plus il y aura la sécheresse, donc moins on aura de ressources.
Non, enfin là, on n'est pas sur l'intuition, hein. On est sur le travail scientifique.
Absolument, mais ce que je veux dire par là, c'est que le lien mécanique, direct, qui nous dirait un monde plus chaud est nécessairement un monde dans
générateur
lequel...
générateur de conflits ou de famine.
Dans lequel on aurait moins de ressources agricoles est une équation beaucoup trop simple pour la réalité scientifique.
Valérie Masson-Delmotte.
Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est que par exemple, vous faites référence au chapitre sur la sécurité humaine du dernier rapport du GIEC de 2014, mais vous ne citez pas, par exemple, le chapitre sur la sécurité alimentaire. Et le chapitre sur la sécurité alimentaire, il est très clair. Il y a déjà des effets sur les rendements agricoles du changement climatique déjà observé. Les effets négatifs dominent par rapport aux effets positifs qui existent, hein, par exemple dans les zones les plus froides, en altitude, vers les pôles. Il y a un effet négatif qui est très clairement établi pour des températures au-dessus de 30 degrés sur les rendements des principales céréales. Donc là, il y a une exposition au risque qui est plus grande dans les régions tropicales. Et puis, sur les projections, c'est-à-dire cette fois-ci, non pas ce qui a été observé, mais sur les risques à venir, puisqu'il n'y a pas d'analogie dans le passé à l'ampleur du réchauffement et ses conséquences sur les prochaines décennies. Et là, en fait, les effets dans les études existantes, publiées, sont plutôt globalement négatifs sur la production agricole pour un réchauffement de plus de 2 degrés, en particulier en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique centrale et en Amérique du Sud.
Alors, sans compter toutes les régions du monde où, au contraire, les rendements vont augmenter, plutôt au nord et plutôt
au Canada ou en Russie, par exemple.
Au Canada, en Russie, qui ne sont pas exactement parmi les terres les moins importantes pour le futur de l'alimentation de la planète. Mais c'est un autre sujet. Rappelons quand même aussi, comme vous savez très bien, que ce n'est pas simplement la température, mais en l'espèce la pluviométrie, qui est souvent le facteur central dans l'augmentation ou la diminution de la ressource. Après, il y a un deuxième argument. C'est que, est-ce qu'aujourd'hui, on se fait la guerre pour les ressources ? Mais non, on n'est plus au Moyen-Âge. On ne se fait plus la guerre pour les ressources alimentaires. Il n'y a que de manière très localisée dans certaines régions d'Afrique qu'on se fait... Voilà, la violence peut vraiment être générée localement, hein, pas au niveau de la guerre interétatique, pas au niveau de la guerre civile, mais qu'on se fait la guerre pour les ressources physiques, ouais. C'est-à-dire l'eau ou...
Par exemple, la question du stress hydrique, fait la guerre pour l'eau.
On va venir à la question de l'eau. Mais si vous voulez, venons-y tout de suite, puisque vous me posez la question. L'eau n'a jamais été... à l'époque moderne, le facteur déclenchant principal d'un conflit.
Ce sont des menaces qu'on brandit.
Oh, ce sont des menaces, il y en a.
On ne passe jamais à l'acte.
Écoutez, j'entendais que l'émission précédente était consacrée à la Turquie. Combien de fois on a entendu la Turquie, et même avant Erdogan, menacer de couper l'eau, c'est-à-dire de fermer les barrages qui, en amont, contrôlent, puisque la Turquie, c'est le grand bassin hydrique, le Tigre, le Euphrate descendent de Turquie. Mais en fait, personne n'y a intérêt. Ça ne veut pas dire que ça rentre jamais en considération. Vous pouvez pas expliquer les conflits du Proche-Orient, le conflit entre l'Inde et le Pakistan, si vous mettez totalement dehors la question de l'eau. Mais on ne se fait pas la guerre pour l'eau.
Valérie Masson-Delmotte, cette question d'une auditrice, Valérie, l'instabilité due au dérèglement climatique va-t-elle ramener la famine ? C'est sa question.
En fait, la question de la famine, c'est aussi une question de politique agricole, c'est une question de capacité à transporter la nourriture, à stocker la nourriture, etc. Donc c'est une question qui n'est pas uniquement une question de changement climatique. Mmh. Donc la partie purement changement climatique, je l'ai déjà mentionnée, on s'attend à des effets potentiellement importants, en particulier pour la production de céréales. On s'attend à des changements extrêmement contrastés également selon les régions. Alors je voudrais revenir quand même sur le livre dont on parle, hein, de Bruno Tertrais, parce que ce sont des points de connaissance, aboutis en particulier, que vous mettez en cause finalement, parce que vous dites le ralentissement de la production des rendements de cultures céréalières s'explique par le ralentissement de l'accroissement démographique, ou non, il n'y a pas d'augmentation du nombre de catastrophes naturelles, ce sont les données des assureurs, il y a une augmentation parce qu'il y a plus de biens et de personnes exposées.
Parlons-en si vous voulez.
On va y revenir abondamment après.
Je reviens simplement sur les faits. Ouais, on a déjà une augmentation de l'intensité, de la fréquence, de la durée des vagues de chaleur. Dans certaines régions, de mousson est tempéré de l'intensité des pluies torrentielles. Et dans certaines régions de climat méditerranéen, comme la Californie ou la Syrie, des sécheresses records qui sont déjà observées. Ce sont exactement ce type de mécanismes qu'on s'attend à voir se renforcer à mesure que le climat va continuer à changer, parce que les mécanismes physiques sous-jacents sont bien compris. Mais, comme je l'ai déjà expliqué tout à l'heure, les conséquences de ce changement climatique vont dépendre de nos choix. Est-ce qu'on va investir pour adapter les productions agricoles ? Oui, non. Est-ce qu'on va avoir des infrastructures qui vont permettre de distribuer la production agricole pour que les populations les plus vulnérables aient accès à la nourriture, même lorsque dans leur région, leur production vivrière est touchée par une diminution liée à l'aléa climatique, etc.
Allez, on y revient dans un instant. Question posée, on va répondre dans un instant. Bruno Tertrais. Non, parce qu'on doit. Si, on va répondre dans un instant. On doit juste marquer une petite pause avec Frère Animal. Et juste après, vous avez le temps de méditer, on va répondre à Valérie Masson-Delmotte.
Faudrait pouvoir se barrer ou balancer un pavé. Vois comme on nous prend de haut, comme on se sent de trop. Je suis seul et transi, il fait peur, mon pays. Vis ma vie de chômeur, je ne suis pas au meilleur. Y'a plus rien qui me tient, c'est la crise, toi t'es bien. Méprise mon refrain. Faudrait pouvoir se barrer, leur balancer un pavé. Vois comme on nous prend de haut, comme on se sent de trop. On attend le Messie, il est là. Tu vois pas, j'entends le bruit des potes. Oui, mais j'ai pas l'antidote, c'est le prix. Et charrie, c'est plus l'heure. Revoici nos censeurs. Faudrait pouvoir se barrer ou balancer un pavé. Vois comme on nous prend de haut, comme on se sent de trop. Faudrait pouvoir se barrer, leur balancer un pavé. Vois comme on nous prend de haut. On est où? Plus chez nous. Ferme-la pour une fois. Tu peux t'attendre au pire. Les attentats, les martyrs. Qui dit vrai? Et après, faudrait pouvoir se barrer ou balancer un pavé. Vois comme on nous prend de haut, comme on se sent de trop. Faudrait pouvoir se barrer, leur balancer un pavé. Vois comme on nous prend de haut, comme on se sent de trop. Faudrait pouvoir se barrer, leur balancer un pavé. Vois comme on nous prend de haut.
Qu'est-ce qui va changer pour les opérations militaires? Comment gérer la hausse du niveau de la mer, la multiplication des tempêtes, le permafrost qui va fondre? Comment on va pouvoir conduire un tank dans ces nouvelles conditions puisqu'il s'agit de l'armée ici? Est-ce que d'autres véhicules seront inutilisables? Et si vous voyez tout ça sur le plan géopolitique, c'est fondamental. C'est fondamental, notamment par rapport à la Russie. Vous avez là une nation qui reconstruit son armée et ses intentions ne sont pas claires. Et regardez, même aujourd'hui, on vient d'apprendre que la Russie organise des manœuvres aériennes en Arctique, en réponse à un exercice de l'OTAN. Ça n'était pas prévu. On ne comprend pas où ils veulent en venir.
Et plus la glace fond au pôle Nord, plus la tension monte. Des nouvelles voies maritimes s'ouvrent entre l'Atlantique et le Pacifique. Les richesses considérables du sous-sol sont désormais accessibles, comme le pétrole et le gaz. Et comme aucune loi ne réglemente tout ça, Russes et Américains montrent leurs muscles.
Voilà, avec un documentaire diffusé en juin 2015 sur France 2, Guerre du climat, et vous entendiez la voix de l'amiral américain David Titley, qui est spécialiste des conflits liés au climat, et avec nous Bruno Tertrais pour ce livre Les guerres du climat, justement, contre-enquête sur un mythe moderne au CNRS, et Valérie Masson-Delmotte. Bruno Tertrais, les politiques de sécurité et de défense, Elles font du catastrophisme au sujet des effets du réchauffement climatique, selon vous?
Ça dépend de quoi on parle. S'il s'agit de voir comment est-ce que les armées, les marines en particulier, vont gérer l'augmentation du niveau de la mer, ça me paraît être tout à fait une réaction tout à fait saine. Hein. Mmh. En revanche, se dire c'est à cause du changement climatique, il y aura de plus en plus de conflits et donc on va de plus en plus intervenir. Là, c'est ce que j'appelle un raisonnement paresseux que malheureusement, même certains amiraux aux États-Unis, naturellement pas en France, peuvent tenir. Je voudrais revenir sur un ou deux points mentionnés tout à l'heure.
Alors, la question famine, l'auditeur sur famine, les famines. Famine et puis événements extrêmes.
C'est pas les famines qui causent les guerres, ce sont les guerres qui causent les famines. Aujourd'hui, comme le disait d'ailleurs Mme Masson-Delmotte, le facteur politique, la gouvernance, la gestion des de ressources par les États, par les communautés locales, c'est
ce
ça.
Ce sont les causes.
C'est ça les causes des familles et pas l'inverse. Deuxièmement, sur les catastrophes naturelles, les événements extrêmes.
Alors là, vous n'êtes pas d'accord.
Premièrement, je suis pas sûr qu'on parle de la même chose, sachant que
sur la multiplication des événements.
Ah
en
bah
tout
écoutez,
cas,
écoutez, répondons très clairement.
Et l'origine anthropique.
Premier niveau. Ce que vous lisez dans la presse, pardonnez-moi, la presse écrite, naturellement, pas la radio. Dit, le nombre des catastrophes naturelles est en augmentation. Méfiez-vous quand vous voyez ce titre, parce que généralement, il part d'une comptabilité. Qu'elles proviennent des compagnies d'assurance ou de l'université de Louvain en Belgique qui a la plus grande base de données des catastrophes naturelles, qui a des critères qui font que ce n'est pas les événements eux-mêmes qu'on compte, mais les événements qui ont l'impact économique ou humain le plus important. Et donc cette comptabilité est très artificielle. Sur les événements extrêmes eux-mêmes, moi je m'en reste pour l'instant, j'en reste à ce que dit le GIEC lui-même, qui est quand même le point de référence, la méta-étude la plus récente. Et qu'est-ce que je lis? Je lis confiance modérée dans le fait que les vagues de chaleur sont plus fréquentes ou plus longues, confiance faible dans le fait que les sécheresses sont plus intenses et ou plus longues, confiance faible dans laquelle...
Quelle année? C'est les chiffres de quelle année,
c'est
ça?
C'est le dernier rapport du GIEC, tout simplement.
Non.
Vous citez le rapport sur les événements extrêmes de 2012.
Ce sont les mêmes stats. Et si,
Que vous citez ensuite, pour la partie sécurité, le rapport de 2014.
Absolument.
Dans ce rapport de 2014, il y a trois volumes.
Oui.
Climat, impact, stratégie.
Bah oui,
dans la partie climat de 2014, je lis, il y a eu une évidence beaucoup plus forte que lors du SREX pour l'influence humaine sur les extrêmes de température. Le niveau de confiance a augmenté. Il y a maintenant une évidence qu'il y a un effet de l'influence humaine sur l'intensification des événements de pluie torrentielle, là où les données sont suffisantes pour permettre de le détecter.
Et pourtant, c'est exactement le tableau que je viens de citer, c'est exactement, vous avez raison, mais le tableau, c'est-à-dire les expressions, le tableau récapitulatif est exactement le même que dans celui de 2012.
Mais
donc
il a été remis à jour
non, c'est la
en
même
2013,
chose.
Le niveau de confiance a changé pour les vagues de chaleur, même que pour les pluies torrentielles.
Alors, qu'en est-il justement?
Parlons de l'avenir, puisqu'on n'est pas d'accord sur le passé.
Valérie Masson-Delmotte,
on va parler de l'avenir.
Qu'en est-il sur les projections?
Pour l'avenir, on voit, à mon sens, là aussi, des niveaux de confiance. À mon sens, quand je lis ce tableau du tout dernier rapport du GIEC, on voit quand même qu'il y a aujourd'hui des très très grandes incertitudes sur ce que va être exactement l'impact du réchauffement climatique sur les événements extrêmes. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Je dis que là, si on regarde le tableau récapitulatif du GIEC, du tout dernier rapport du GIEC, on voit que les degrés de confiance sont quand même relativement modérés. Après, on va parler de conséquences sur les conflits. C'est quand même ça notre débat.
Alors,
nous ne sommes pas dans un débat entre climatologues.
Oui, sauf que les événements extrêmes, c'est important aussi. On peut s'arrêter là-dessus, Valérie Masson-Delmotte, sur l'état de la connaissance justement scientifique aujourd'hui à ce sujet et les projections qu'on peut en faire.
Là où les mécanismes sont bien compris, c'est observé, et tous les calculs montrent que ça va s'accentuer, c'est autour des vagues de chaleur, autour également de l'intensité des fortes pluies. Le mécanisme il est assez simple, plus l'atmosphère est chaude, plus elle peut transporter d'humidité. Donc le même événement, avec ou sans l'influence de l'homme sur le climat, la même situation de vent météorologique n'aura pas le même effet. Et également, l'intensification du risque de sécheresse, c'est également un des aspects pour lequel, dans certaines régions, on a un niveau de confiance moyen. En particulier donc pour les régions de climat méditerranéen, en Amérique centrale, en Australie, ou bien autour de la région méditerranéenne. Et là-dessus, franchement, je trouve que vous minimisez l'état des connaissances.
Mais pourtant, je cite le GIEC.
Oui, mais vous citez des travaux qui ont parfois 5 ans, 6 ans, 7 ans.
En l'espèce, je cite le dernier rapport du GIEC.
Les connaissances
ce
évoluent.
Tableau-là, c'est celui du GIEC.
Et dans votre conclusion, d'ailleurs, vous dites on ne sait rien quasiment sur l'évolution régionale du climat, en particulier la pluviométrie.
Non, je parle des incertitudes.
Vous mentionnez, par exemple, la mousson africaine, comme si on était incapable de dire quoi que ce soit. Il y a des travaux récents. Vous allez sur Google, vous tapez mousson africaine, changement climatique.
Et vous pouvez suivre. La prochaine fois, je penserai aller sur Google, plutôt que de lire de la littérature scientifique.
Et vous pouvez suivre, en fait, la production de littérature scientifique, en particulier par le Programme mondial d'études du climat et son initiative pour la modélisation du climat régional.
Justement, à ce sujet...
Il y a un certain nombre de résultats majeurs en train d'émerger.
Justement, à ce sujet, mon point consiste à dire je ne dis pas qu'on ne sait rien sur ce que seront les impacts régionaux du changement climatique, mais de dire qu'on n'en sait pas assez pour que ça soit utile en termes de prévision pour les amiraux américains et les généraux français, pour que quand ils viennent me demander ou demander à d'autres, parce qu'il n'y a pas que moi évidemment qui suis concerné, quelles seront les zones de crise principalement affectées par le changement climatique en termes de déstabilisation sociétale et interétatique dans 30 ans? Je dis, je n'en sais rien et je pense qu'on ne peut pas le savoir.
Et vous dites, en conclusion, vraiment pour résumer grossièrement, un monde plus chaud, c'est pas un monde avec plus de conflits.
C'est pas nécessairement un monde avec plus de conflits. Mais parlons de la désertification, parlons des vagues de chaleur, puisqu'effectivement c'est un des points sur lesquels le niveau de confiance est plutôt un tout petit peu plus élevé que sur d'autres points. Alors, est-ce que vagues de chaleur, est-ce que grande sécheresse veut dire nécessairement conflit? Alors, deux exemples, parce qu'on en a beaucoup parlé dans l'actualité ces 10 dernières années. Le Darfour d'une part, la Syrie d'autre part. Alors, le Darfour, certes, mais quand on regarde de près quels ont été les mécanismes déclencheurs des violences à grande échelle, pas le fait qu'il y ait des pasteurs et des agriculteurs qui aient changé la localisation de leurs troupeaux, de leurs élevages. Bien sûr, ça c'est directement lié à la sécheresse, mais après que ceci devienne un épisode de violence collective, d'un très grand épisode de violence de conflit et de massacre, alors là, les responsabilités sont très clairement humaines. Même chose pour la Syrie d'ailleurs, on pourra en reparler.
Alors, Valérie Masson-Delmotte.
Oui, tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, c'est quelque chose qui est avéré pour le Darfour. Et pour la Syrie, la responsabilité du gouvernement Assad sur sa politique agricole, elle est gigantesque par rapport à l'exode rural qui a suivi une sécheresse sans précédent, plusieurs années, et par ailleurs pour laquelle les analyses en termes de climatologie montrent qu'il y a des déterminants liés à l'influence de l'homme sur le climat, à la fois sur le déficit de précipitations et sur la vague de chaleur, les deux facteurs se conjuguant pour produire une sécheresse assez exceptionnelle.
Mais pourquoi est-ce qu'on en reparlait? Tout simplement parce que vous aviez le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, qui disait quand même que le Darfour est la première guerre climatique. Voilà pourquoi il faut en parler, voilà pourquoi il faut essayer, vous et moi, chacun à notre manière, de montrer que non, c'est un petit peu plus compliqué que ça quand même.
My boyfriend.
Mr. Postman, The Marvelettes, et c'est sur France Inter.
Il y a de la boue partout. Ce n'est pas la pluie, c'est de l'eau de la rivière. Elle est arrivée d'un coup. À 4h du matin, quand j'ai ouvert la porte, j'ai vu toute cette eau qui est venue dans ma maison. J'ai regardé mes pieds dans la boue. Et j'ai pleuré. Tout est foutu. Vraiment tout. Je regarde l'avenir de mes enfants et ce n'est plus sûr ici au village. Nous devons partir.
Voilà, toujours extrait de ce documentaire Climat de guerre diffusé en juin 2015 sur France 2. La question donc des réfugiés climatiques, comment on doit les nommer, Valérie Masson-Delmotte ?
Alors moi, c'est pas mon domaine d'expertise, donc je pense que le choix des mots fait l'objet de discussions au niveau politique international. Oui. Ensuite,
migration climatique, réfugiés climatiques.
En fait, il y a beaucoup de déterminants d'une migration. Il y a des déterminants en termes de pauvreté, en termes de capacité à revenir sur la zone suivant une catastrophe naturelle. Et puis ensuite, il y a, dans un certain nombre de cas, le changement climatique qui peut exacerber ces déterminants-là.
Oui.
Et souvent des migrations à l'intérieur d'un pays, en fait, d'une zone rurale vers une ville. Voilà, je pense que c'est des points sur lesquels vous revenez également dans votre
livre. Bruno Tertrais.
C'est un point important ce que vient de dire Valérie Masson-Delmotte, parce que la plupart des migrations ne se font pas d'un continent à l'autre. C'est pas ce qu'on voit, c'est pas la tragédie des migrants qu'on voit aujourd'hui
mais au sein
d'une même région, ou voire même de l'équivalent d'un département, vous voyez. Alors, il y a un énorme problème avec le concept de migrant climatique ou de migrant environnemental, c'est un concept politique, soyons très clairs.
Il y a pourquoi pas de définition.
Mais parce que la migration, comme le disait à l'instant Valérie, c'est le produit de multiples facteurs et le GIEC lui-même dit, je cite à peu près de mémoire, les facteurs climatiques, c'est un petit peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est-à-dire que ça déclenche la décision de migrer, mais ça n'est pas la cause de la migration. Il n'y a pas une catégorie particulière de migrants climatiques et là encore, le GIEC dit, en fait, cette catégorie ne sert à rien. Enfin, n'a pas de validité scientifique et donc elle n'est pas très utile dans les débats qu'on peut avoir sur l'adaptation.
L'extrait qu'on vient d'entendre était intéressant avec le cyclone et le Vanuatu, Valérie Masson-Delmotte. L'exemple même d'une famille qui décide d'envisager de partir, en tout cas à l'avenir. Mais
dans les négociations internationales sur le climat, il y a un certain nombre de pays qui sont parmi les plus vulnérables, en particulier par rapport à la question de la montée du niveau de la mer, qui eux formulent la réflexion dans le cadre d'une considération vitale par rapport au pays même.
Question de Janine, pardon, petite parenthèse, Valérie Masson-Delmotte, est-ce qu'il y aura des déplacements de population dus précisément à la montée des eaux ?
Alors, la montée du niveau des mers, c'est quelque chose qui est relativement graduel. Aujourd'hui, c'est de l'ordre en moyenne de 3 mm par an. Si on ne maîtrise pas le réchauffement climatique, là par contre, on s'attend à une forte accélération, typiquement de l'ordre de 8 à 15 mm par an en fin de siècle. Et puis, en même temps, il y a également la conjonction entre les cyclones, cette montée du niveau des mers, qui peut faire ponctuellement des très hauts niveaux localement et provoquer des inondations.
Bruno Tertrais nous dit, mais il faut aussi penser à la sédimentation. C'est-à-dire que tous ces événements vont aussi permettre peut-être de contrer ces effets
Ce que je dis surtout, c'est qu'en général, les migrations locales causées par ce qu'on appelle la montée du niveau de la mer, c'est souvent des facteurs qui ne sont pas forcément liés au changement climatique. Ce sont des migrations environnementales, mais pas climatiques. Deux exemples. Par exemple, lorsqu'une île monte au niveau de la mer, c'est pas forcément parce que l'eau monte, c'est parce que l'île descend. Ça s'appelle la subsidence. Ça existe notamment pour les terrains volcaniques, mais pas seulement. Autre exemple, le Bangladesh.
Ouais.
Bangladesh, si l'eau monte au Bangladesh sur les côtes, c'est très souvent parce que malheureusement l'humanité, les pauvres airs dont on a parlé tout à l'heure, ce sont eux qui ont détruit les forêts de mangroves qui retenaient l'eau justement. Vous voyez, ce qui est environnemental n'est pas forcément climatique, ouais. même si c'est causé par l'homme.
Alors par contre, vous dites dans votre livre quelque chose qui est quand même assez remarquable. L'engloutissement partiel du Bangladesh est une hypothèse plus que fragile. Donc vous mentionnez l'importance des dépôts de sédiments qui sont importants.
C'est
il y a la subsidence, il y a les dépôts de sédiments. Il faut quand même voir que le Bangladesh s'est soumis aujourd'hui aux effets croisés niveau des mers, précipitations intenses et cyclones.
Donc les sédiments vont pas suffire.
Une population vulnérable dans toutes ses composantes, je dirais. Le risque de salinisation des sols qui est déjà observé. Donc moi je cite juste trois études, j'ai pris les publications scientifiques des deux dernières années. On s'attend à une montée du niveau des mers de l'ordre de 40 cm dans le scénario business as usual dans cette région. Les événements de fort niveau des mers qui se produisent aujourd'hui, une fois par 10 ans, ça se produirait tous les ans en 2050, pour donner un ordre de grandeur. Donc les événements d'inondation côtière. Et même en prenant en compte l'apport de sédiments ou les phénomènes de subsidence, etc., c'est une région qui va être fortement affectée par la montée du niveau des mers. Et ça, vous le résumez dans votre livre en une phrase en disant « L'engloutissement est une hypothèse plus que fragile ».
Oui, mais je la confirme. L'engloutissement du Bangladesh est une hypothèse...
Partielle, l'engloutissement même partiel.
Même partiel du Bangladesh est une hypothèse plus que fragile, parce que ça signifierait qu'à l'échéance de 2050, on n'ait absolument rien fait, y compris en matière de rétablissement des barrières naturelles, y compris en matière de gestion dans la manière dont l'estuaire, dont les flux de l'estuaire se développent, qu'on avait. Donc ça ne me paraît pas être quelque chose de très sérieux. En tout cas, l'image de ce paysan, de ce pauvre paysan bangladais qui est inexorablement fait face à la montée du niveau de la mer et personne n'a jamais été responsable, c'est le climat, c'est l'évolution climatique, ça me semble être une image, si vous voulez, qui ne correspond pas à la réalité des
pourtant
des
c'est un exemple
même
emblématique
s'il y a...
Valérie Masson-Delmotte.
C'est une zone qui est considérée comme vulnérable comme beaucoup de régions delta, pas uniquement
absolument.
Celle-ci. C'est une région
absolument.
Qui aussi, je pense, un laboratoire d'expérimentation parce qu'il y a l'idée de plutôt que bloquer les choses en faisant des barrages qui ont toujours des effets positifs voire négatifs sur les flux de sédiments, c'est essayer de faire avec...
Oui.
Faire avec cette intrusion des eaux de mer sur la zone côtière, moi je vois plutôt comme un laboratoire sur l'adaptation pour arriver à maintenir des populations dans la zone où elles souhaitent rester.
Je crois qu'on sera d'accord, mais pour revenir au cœur du sujet, après il y a l'autre question, c'est est-ce que les migrations sont génératrices de conflits ? Et là, on s'aperçoit que non, généralement c'est pas le cas, parce qu'on conçoit les migrations comme une sorte d'invasion généralisée. Vous voyez des millions de gens qui migrent en même temps dans un autre pays, ça se passe pas comme ça. C'est soit plus lent, soit moins intense. Mmh. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas parfois, comme on le voit aujourd'hui en Europe, d'ailleurs, des migrations à la fois intenses et rapides, mais historiquement, dans l'histoire, les migrations ne sont pas un déclencheur principal de conflits.
Allez, quelques questions d'auditeurs. Valérie Masson-Delmotte, Georges vous parle du rôle des courants océaniques. El Niño, le Gulf Stream sont-ils appelés à jouer un rôle de plus en plus important aujourd'hui sur la planète ?
Alors, dans la variabilité du climat, il y a la somme de plusieurs facteurs. Il y a une variabilité spontanée. El Niño fait partie de cette variabilité spontanée du climat. Les courants de l'Atlantique Nord, pas que le Gulf Stream, mais l'ensemble des courants marins de l'Atlantique Nord façonnent par exemple la variabilité des pluies en Europe sur d'une année à l'autre, d'une décennie à l'autre. Et puis ensuite, il y a une composante qui est liée à l'influence de l'homme sur le climat qui provoque des tendances de long terme. Et donc aujourd'hui, la communauté scientifique, elle essaie de travailler à la prévision, non pas les projections de tendances à 100 ans, mais aborder les prévisions à l'échelle de la saison, à l'échelle de la décennie. Et pour ça, il faut prendre en compte l'état de l'océan aujourd'hui, à l'instant T. Il y a une mémoire, en fait, dans ces composantes naturelles du climat. Et donc, il y a la possibilité d'aller au-delà de la prévision météo, qui est sur quelques jours, uniquement par l'état de l'atmosphère, mais d'aller vers une prévision à l'échelle de la saison. C'est le cas dans les régions tropicales pour El Niño, on l'a vu récemment. Même dans certaines régions, par exemple pour nous, en Europe, une prévisibilité à l'échelle de la décennie. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui est amené à prendre de plus en plus d'importance. Et cette prévisibilité à l'échelle de la saison, de l'année, etc., elle est extrêmement importante pour de nombreux secteurs d'activité. Mmh. On peut parler de la production d'énergie, on peut parler de l'activité agricole, etc. Donc c'est vraiment une piste de recherche extrêmement importante.
Allez, dernière question très vite. Anaëlle, comment convaincre le grand public de l'irréversibilité du dérèglement climatique ? Alors vous aurez deux réponses évidemment différentes à cette question. Valérie Masson-Delmotte d'abord peut-être.
Alors, c'est pas que convaincre le grand public, c'est simplement arriver à expliquer que le climat, il a un temps de réponse par rapport à la perturbation qui est déjà dans l'atmosphère, et puis notre société, elle a aussi une certaine inertie. Et donc, quoi qu'on fasse, on va vers la poursuite d'un réchauffement sur les prochaines décennies. Et si on agit collectivement d'une manière importante, il est possible de le stabiliser au-delà de 2050.
Ouais.
Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à expliquer. Et je pense même que le dernier rapport du GIEC n'avait pas d'illustration suffisamment explicite pour arriver à le montrer le plus clairement possible.
Bruno Tertrais, qu'est-ce que vous répondez à Anel ? Qu'il ne faut pas essayer de convaincre puisqu'on fait du catastrophisme ?
Non, je dirais simplement, je ne répondrai pas sur ce... J'élargis un tout petit peu la perspective en disant que il est extrêmement difficile de convaincre les opinions de la nécessité d'agir tout de suite pour un problème que leurs descendants auront peut-être à gérer dans 30 ou 50 ans. C'est vrai pour le changement climatique comme pour bien d'autres sujets. Et le problème, c'est que si vous criez au loup, si vous faites trop d'alarmisme, ce n'est pas le cas de madame aujourd'hui, mais beaucoup de scientifiques le font à mon sens aujourd'hui, vous risquez de décrédibiliser votre parole scientifique.
Et de brouiller complètement le message.
Et de brouiller complètement le message. Donc c'est très très difficile.
Ouais. La Chine et les États-Unis qui viennent de ratifier l'accord de Paris sur le climat, Valérie Masson-Delmotte, on ne peut pas quitter sans en parler quand même.
Il manque l'Inde. Quelques pourcents, une quinzaine de pourcents d'émissions de gaz à effet de serre et puis une vingtaine de pays pour que l'accord de Paris rentre en vigueur. Ce serait bien que l'Union européenne le ratifie rapidement.
Là, c'est quand même pas mal, non ? Les États-Unis et la Chine.
Ah oui, c'est important. Ouais. C'est vraiment, je pense, une réussite majeure par rapport à la mise en œuvre relativement rapide de cet accord.
Mmh. On se reparlera au mois d'octobre puisque vous sortez un livre avec une équipe de scientifiques sur le Groenland hein, et vous avez fait beaucoup de missions là-bas. On aura donc l'occasion d'en reparler, ce sera le 6 octobre. Là aussi d'ailleurs aux éditions du CNRS, hein, Valérie Masson-Delmotte, même éditeur pour vous, Bruno Tertrais, les guerres du climat, contre-enquête sur un mythe moderne dans cette collection à 5 euros et qui fait 45 pages. Merci beaucoup Bruno Tertrais et Valérie Masson-Delmotte. Bonjour Fabrice Drouel.
Bonjour.
Affaire sensible avec vous dans un instant. Quel sera le thème ?
La mort du Tché qui est encore entourée de mystères et nous en parlerons avec notre invité, l'homme, le français, qui l'a connu et qui a fait un bout de chemin avec lui. C'est Régis Debray, bien sûr, il est notre invité.
Voilà, ce sera juste après les informations. Affaire sensible.